Ça va mousser, l'émission qui glougloute, proposée par
Seb,
Pascal
et Manu
sur Radio Campus Amiens 87.7 en modulation de fréquence.
Ça va mousser, parce que nous voulions vous parler d'un produit qu'on aime bien, la bière. Pour ça, nous avons été voir des brasseurs pour qu'ils nous racontent leur parcours, leur métier, leur produit. Et pour les suivre dans ces parcours, nous avons ajouté quelques remarques scientifiques, culinaires et musicales. Ça va mousser. Pour ce premier épisode, nous nous sommes rendus à Esquelbecq, dans le Nord, au Festival de la bière de récolte organisé par la brasserie Thirier le 3 novembre 2024. Nous y avons rencontré Jean-Christophe de la brasserie Cambier à Croix dans le Nord et Christophe de la fermenterie des Champs Marmots à Morzine en Savoie. Pour nous rappeler que l'alcool doit être consommé avec modération, nous avons aussi invité les gars du labo, que vous retrouvez chaque semaine sur Radio Campus Amiens pour leur chronique scientifique, afin de nous expliquer les effets de l'altitude sur l'ivresse. Et pour commencer, nous laissons la parole à Seb, notre maître capsule, pour nous dire en quelques mots, c'est quoi la bière ?
Ah mais mon cher Manu, des céréales, du houblon, de la levure, et bien sûr beaucoup d'eau. Le houblon étant obligatoire pour avoir l'appellation bière, bien sûr. Alors, prenant en compte ces trois éléments, on peut classer les bières en trois grandes catégories. Je m'apprête à vous décrire avec une joie non dissimulée. Alors, on a les bières de fermentation basse, c'est-à-dire qui fermentent à une température en général inférieure à 14 degrés. On peut citer par exemple les lagers, les pils. Ensuite, deuxième catégorie. Les bières de fermentation naturelle ou spontanée, on dit aussi spontanée, où l'on n'ajoute pas de levure chimique, mais la nature fait le travail. On en reparlera d'ailleurs dans la deuxième interview de cette émission. Et enfin, la troisième catégorie qui représente en général la quasi-totalité des bières artisanales, les bières de fermentation haute, c'est-à-dire une température ambiante, 16 à 25 degrés en général. On peut citer par exemple les IPA, les saisons, les stouts, dont on reparlera en cuisine tout à l'heure.
Et maintenant, la parole à Jean-Christophe.
Alors Jean-Christophe, il paraît que avant de venir faire de la vraie bière, t'as bossé chez les horribles.
Oui, alors ce qu'on appelle horrible, c'est de la bière industrielle. Donc moi, je travaillais chez Heineken, hein, voilà, donc une grosse brasserie industrielle. Tout à fait, ouais, j'étais responsable qualité là-bas.
Et alors, t'as quand même continué à faire de la bière, même si c'est de la bière un peu différente. Donc, t'y as quand même trouvé un intérêt.
Oui, alors c'est différent de la production en brasserie artisanale, mais malgré tout, on travaille avec les mêmes ingrédients hein, et c'était une très bonne expérience, notamment sur la régularité, parce que je pense que les consommateurs veulent des bières artisanales, mais ils veulent aussi des bières régulières. Hein, et l'expérience qualité chez Heineken, ça m'a appris beaucoup sur notamment comment être régulier. Hein.
Alors justement, comment être régulier ?
Bah, être régulier, ça veut dire regarder pas mal de choses dans le process, parce qu'il n'y a pas que la recette. Quand on fait un gâteau à la maison, on fait un 4 quarts, on va mettre des œufs, de la farine, on va respecter le dosage, et puis on va le mettre dans le four, et dans le four, en fait, on va faire cuire peut-être à 180 degrés pendant 10 minutes, mais peut-être qu'il fallait le faire cuire à 180 degrés pendant 9 minutes. Donc il y a la recette, il y a les paramètres, ce qu'on appelle paramètres process, bah, la cuisson du four, le temps, la température, c'est d'autres paramètres. Et ces paramètres-là sont hyper importants. Ils sont même plus importants que le respect de la recette au départ. Hein.
Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à lâcher la bière industrielle pour te lancer dans une aventure pas forcément évidente ?
Alors, il y a pas mal de choses. Je pense que la première chose, c'est la volonté d'être indépendant. Donc, je pense qu'on se rejoint très bien en termes de valeur avec la brasserie Thirier. On est une brasserie indépendante, c'est 100%, là, voilà, ça m'appartient à 100% et moi j'en suis fier aujourd'hui d'être indépendant. Et après, c'est aussi une certaine liberté, une créativité qui sont derrière. Chez Heineken, on lançait des bières de temps en temps, mais à mon niveau, j'avais pas du tout une décision importante. Donc c'est pas du tout le même fonctionnement. Voilà.
Et donc quand tu as lancé Cambier, qu'est-ce que tu as commencé à produire ?
Alors déjà, je suis venu ici et Daniel m'a beaucoup aidé pour démarrer. Et il m'a dit plusieurs choses qui étaient quand même très intéressantes. La première, c'est que c'est bien d'avoir sa propre levure et d'avoir sa signature.
Hey, stop ! Maître Capsule, de quoi s'agit-il ici ? De levure ? De brioche ? De signature ?
Alors oui, effectivement, on met de la levure dans la brioche et dans le pain, mais aussi dans la bière. Pourquoi mettre de la levure dans la bière ? Eh bien, pour transformer les sucres en alcool et produire du CD pour produire des bulles. On a aussi effectivement des signatures différentes puisqu'on a des levures qui travaillent à des températures différentes, qui donnent des goûts différents pour avoir au final une bière avec une signature.
Donc lui, il a sa levure à Bruxelles, à l'Institut Meurice. Bah, en fait, je suis allé voir l'Institut Meurice et donc moi aussi, j'ai ma propre levure pour une partie de mes bières. Et c'est pas une levure que d'autres brasseurs peuvent utiliser, comme ici, hein. Donc pour notre blonde, notre triple, notre ambrée. Donc au début, j'ai brassé des styles plutôt classiques. Et depuis, on s'est beaucoup ouvert vers des styles beaucoup plus modernes. Mais à la base, on a fait une blonde, une triple, une ambrée. Comme la blonde d'Eskelbeck, etc. Finalement, c'est un peu un exemple pour nous. Les basiques, mais qui, faut pas oublier, se vendent bien parce qu'on est aussi dans une région qui est très ancrée dans... On est très proche de la Belgique. Les styles belges, ça parle aux gens. Alors, depuis, ça a beaucoup évolué parce que dans Daniel, ça fait 26 ans ou 25 ans, je sais plus. Mais en tout cas, moi, ça fait 10 ans et ça a aussi beaucoup évolué depuis 10 ans. Maintenant, les consommateurs recherchent des IPA, des hazy IPA, des sour aux fruits. Ça s'est beaucoup démocratisé sur plein de styles. Mais des bières simples, bien faites, ça reste quand même un socle important dans une brasserie.
Et alors, tu disais que tu avais passé du temps ici. Ça veut dire que même après avoir travaillé dans une brasserie industrielle, tu ne savais pas encore faire la bière, qu'il fallait encore que tu apprennes ?
Bah alors, j'ai pas été en stage ici, hein, en production, tout ça, mais j'ai questionné pas mal de brasseurs, dont Daniel, et puis du coup, bah voilà, ils m'ont expliqué deux ou trois concepts quand même importants. Donc par exemple, accueillir du public. Donc on a, dès le début aussi, à la brasserie Cambier, on a accueilli du public, on a un bar, et on fait des visites toutes les semaines, on a notre propre levure, bien accueillir les gens, avoir des toilettes, des chaises. C'est bête, hein, mais en fait, faut savoir aussi accueillir... correctement les personnes qui viennent. Et donc quand j'ai démarré, la vente au comptoir, la vente à la brasserie, c'était presque 40% de notre production, hein. Ce qui était quand même très important, hein.
Alors ça, on imagine bien que c'est important économiquement, mais c'est tout, c'est uniquement pour rentabiliser qu'il faut vendre sur place, ou ça a d'autres intérêts?
Moi, l'intérêt que je vois, c'est alors effectivement, on a parlé de la partie économique. Mais en fait, on a un contact direct avec les consommateurs. Et quand j'étais chez Heineken, c'est un peu ce qui me manquait parce que, en fait, on les voyait pas, les consommateurs. On était dans l'usine, dans la brasserie. Et, là, on a un contact direct, on a un retour. C'est aussi un moment convivial avec tout le monde. Et puis la bière, c'est ça aussi avant tout, c'est de la convivialité. Alors ça peut paraître bateau, mais ça ne l'est pas vraiment parce qu'en fait, c'est ce qui se passe dans la réalité. Comme là, le petit festival, c'est bien ça. C'est une rencontre avec les gens autour de la bière. Donc avoir un espace d'accueil, ça permet d'avoir du lien avec les gens.
Et alors, aujourd'hui, Cambier, vous produisez quand même pas mal de types de bières. S'il y a une sorte de bière que tu devais nous recommander aujourd'hui, ça serait quoi ?
Question compliquée, mais... moi, j'ai toujours tendance à revenir vers les styles simples. Alors, aujourd'hui, je ne l'ai pas ramené parce que c'est le festival des bières de récolte, mais moi, la bière que j'adore chez nous, c'est notre simple. Je l'appelle la simple parce que c'est la blonde, en fait. Notre blonde à 6 degrés 2, qu'on a mis beaucoup de temps à peaufiner parce que les bières simples, c'est les plus difficiles à élaborer parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la température dans le four. Des petits ajustements au fil des années... Il y a des recettes, on a mis 5, 6, 7 ans à les caler complètement. Donc moi, si j'en ai une à recommander de chez nous, c'est notre blonde, notre simple, ça montre notre savoir-faire. Voilà, après tout le reste en découle finalement.
Mangie triple est pas mal aussi.
Alors c'est un dérivé de la mangie blonde, c'est la même levure, c'est quasiment la même base maltée, mais il y a deux ou trois différences, elle est plus forte, mais effectivement c'est dans la lignée. On a sorti donc la Double Citra, donc la Double Citra c'est vraiment une bière IPA mais moderne, avec un gros dosage de houblon, et c'est une bière qu'on faisait en éphémère pendant plusieurs années, on brassait que quelques fois dans l'année, et finalement on l'a rendue permanente, parce que on a effectivement rencontré notre public avec cette bière, et on a des fans de cette bière, je comprends, c'est très aromatique.
La bière est bien sûr à consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
De la bière à écouter. Et dans ce domaine, place au maître Jacques Brel avec la chanson La bière parue en 1968.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous, y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs véroles en caracolant de Prosit en scroll. Ça sent la bière de Londres à Berlin. C'est plein d'Amsterdam, c'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'horizons à vous rendre fou. Mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux. On fait des montagnes avec ce qu'on peut. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main.
Et alors, vous êtes nombreux aujourd'hui à la brasserie ?
Alors maintenant, on est 13 en tout. Donc il y a le bar, donc il y a 3 personnes. Et après, la brasserie, on est une dizaine, ouais. Donc oui, ça commence à faire un peu de monde, hein.
Mine de rien. Et les gens qui viennent bosser en brasserie, comment vous les rencontrez ? Parce que vous n'allez pas débaucher que dans les brasseries industrielles. Ils font pas tous le même chemin que toi.
Alors non, en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai un profil finalement assez atypique. Il y a peu de brasseurs artisanaux qui viennent de l'industrie. Du coup, en général, c'est plutôt des gens qui étaient en brasseurs amateurs, qui ont découvert la bière, qui ont été amateurs et qui se sont mis à en produire chez eux. Après, il y a vraiment plein de parcours différents. Il y a beaucoup de reconversions aussi finalement. En fait, ce qui compte, c'est d'être passionné et de vouloir apprendre. Donc c'est sûr que d'avoir une formation technique dans le domaine, ça aide beaucoup. Mais il y a d'autres voies pour y arriver. D'ailleurs, la plupart des artisans brasseurs sont issus de... Voilà, de reconversion. Hein.
Mais du coup, une brasserie aujourd'hui, c'est aussi une école de formation.
Alors oui, parce que finalement, pendant des années, il n'y avait pas de formation. Alors il y en a maintenant. Hein, parce que, alors, je pense que historiquement, il n'y a plus eu de formation parce qu'il n'y avait plus de brasserie. Il y a encore des formations en Belgique parce que sur le coup, eux, ils ont gardé leur brasserie. Il y a des brasseries historiques beaucoup plus qu'en France. Mais maintenant, il y a quand même des formations. Il y a le lycée agricole de Douai qui fait une formation de titre de brasseur. Donc on peut se former. Moi, je pense que c'est important d'être formé parce que ça reste un métier quand même technique. Et si on veut bien maîtriser ce qu'on fait, c'est mieux quand même d'avoir une formation. Après, il y a beaucoup de brasseries du coup qui forment les gens sur le tas en étant dans la brasserie, hein, par la voie de l'apprentissage, par exemple.
Vous êtes membre du syndicat des brasseurs indépendants avec une entité européenne qui vient de se créer. Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Alors ouais, moi je suis membre du syndicat des brasseurs indépendants. Ben voilà, l'indépendance c'est important. Puis c'est important aussi de montrer qu'il n'y a pas une seule voix, je dirais, chez les brasseurs. Après, ben, notre combat, c'est le combat de l'indépendance, mais ça veut dire aussi que notre voix, elle a une importance. Il n'y a pas que les voix des brasseries industrielles. Donc c'est bien que le syndicat ait été créé. Maintenant, derrière, c'est du lobbying, c'est pas facile quand même. Hein.
De la bière pour apprendre.
Les gars du labo présentent...
J'aurais jamais cru que c'était un verre de 2 grammes. J'aurais dit maximum 0,6-0,7.
Les effets de l'alcool en altitude. Après de petites vacances en altitude, de retour dans le train, je me demande. Je n'étais pas très endurant à l'alcool ce week-end. Serait-ce la vieillesse ou bien l'air frais de la montagne ? Eh bien, selon les scientifiques, un verre en altitude est égal à 3 verres en bosse. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque vous buvez de l'alcool, vous perdez petit à petit le contrôle de vos gestes. Le phénomène d'ivresse est provoqué par une réduction de l'apport d'oxygène à votre cerveau. Si vous savez ça, vous savez peut-être aussi qu'il y a moins d'oxygène en altitude. Mais savez-vous pourquoi l'oxygène disparaît petit à petit lorsque vous grimpez ? Si oui, vous pouvez quitter ce podcast. Sinon, restez avec nous, c'est là que ça devient intéressant. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a moins d'oxygène en altitude, il faut s'intéresser à la gravité et à la force d'attraction. La gravité, tout d'abord, c'est l'attraction des corps les uns avec les autres. Plus un corps est massique, plus sa gravité va être importante. Sur Terre, la gravité est de 9,81. La force d'attraction dépend directement de la gravité et elle est définie par la formule suivante. Force égale gravité multipliée par la masse et divisée par l'altitude au carré. Autrement dit, plus la distance est petite, plus la force d'attraction est forte. C'est proportionnel. Personne n'y échappe, pas même les molécules d'air qui ont une masse très faible. Ainsi, les molécules d'air sont attirées vers le centre de la Terre. Il y a donc une concentration plus importante des molécules d'air à l'altitude 0 qu'à 1000. Le raisonnement est donc très simple. À 1000 mètres, il est plus compliqué pour votre corps d'acheminer de l'oxygène à votre cerveau, car sa présence est plus rare, que vous soyez ivre ou non. Le manque d'oxygène va donc accélérer le processus d'ivresse. Ainsi, lorsque vous avez bu un verre en altitude, c'est comme si vous en aviez bu 3 en temps normal. Cela est dû à la quantité d'oxygène que votre corps peut vous fournir à ce moment-là. Vous voilà maintenant en possession de toutes les clés pour comprendre ce qui vous arrivera lorsque vous aurez la tête dans une bassine après seulement une pinte. Un grand merci d'avoir été au bout de ce podcast. Tu peux retrouver nos sources sur notre Instagram, les gars du labo, et toutes les nouvelles de nos actions de vulgarisation. Ce serait avec plaisir de lire tes retours, tes avis, ou de répondre à tes questionnements sur cet épisode. Les gars du labo est un média amateur d'étudiants en sciences économiques et énergie.
Ouais. Ce soir j'arrive dans le club en mode chacal. Ce soir dans le club ça va être bestial. Je te repère au milieu de la piste. Comment t'es magnifique. Salut, votez-moi, c'est Original Guy.
Et maintenant, la parole à Christophe de la fermenterie des Champs Marmots.
Alors Christophe, première question, cette fermenterie, où est-ce qu'elle se trouve ?
Alors je suis situé à Morzine, en Haute-Savoie, donc dans le 74, perdu au milieu de la montagne, à 1000 mètres d'altitude.
Et alors, tous les autres s'appellent brasserie, et vous, vous vous appelez fermenterie. Mais pourquoi donc ? Parce qu'on ne fait pas de bière dans la montagne ?
Alors, on fait beaucoup de bière dans les montagnes, mais je ne me limite pas à la bière, on va dire ça comme ça. Donc l'idée, c'est de faire fermenter tout ce que je peux en travaillant uniquement les levures indigènes et sauvages. Donc de la bière, je fais du cidre et je fais des kombucha. Donc je ne pouvais pas appeler mon endroit brasserie parce que c'était limitatif par rapport à la bière. Et donc ça me permet d'avoir un champ d'action beaucoup plus important dans la fermentation.
Mais d'où vient cette idée bizarre de... Parce que c'est sans doute un des produits les plus compliqués, la levure dans les bières. Donc pourquoi choisir de se rendre ça encore plus difficile ?
Oui et non. Moi, j'ai plutôt répondre que je le rends plus facile. Si on se met un peu dans l'histoire, avant on n'avait pas de levure, on ne maîtrisait pas les levures avant Pasteur. Hein, donc avant tout le monde faisait des bières de façon spontanée. Donc moi je ne fais que faire ce que les autres ont fait des siècles avant moi. Ça impose certains critères techniques. Par exemple, je ne peux travailler que l'hiver dans la bière, pas l'été, des choses comme ça. Mais on a toujours fait comme ça historiquement. Et donc moi je perpétue simplement ce que j'aime dans la bière. Et moi j'aime les bières traditionnelles historiques. Donc je fais ce que j'aime boire en fait.
Et alors, comment t'en es arrivé à faire ce genre de choix ? Parce que ça, c'est pas arrivé dans ta cuisine du jour au lendemain.
Il y a un vieux parcours derrière tout ça. Donc moi, j'ai démarré dans la bière en 2005. Donc j'ai monté une cave à bière en Belgique à l'époque, qui était une des premières caves artisanales en Belgique, que j'ai gardée pendant 15 ans. Et parallèlement à ça, j'ai un parcours de dégustateur. Donc j'étais juge dans les concours de dégustation. Une chose qui me manquait dans mon CV, c'était la production. Et ce que j'ai toujours adoré, c'était les bières justement vraiment historiques, les saisons traditionnelles, les légueuses, etc. Donc quand on a décidé de déménager, de quitter la Belgique pour la Haute-Savoie, le deal c'était ok, mais alors je produis. Voilà, c'était un petit peu ça. Et donc je produis ce que j'ai envie de faire. Et on est dans un environnement merveilleux, justement protégé, où on a accès à plein de choses, de fruits, de fleurs, d'herbes, enfin un peu tout ce qu'on veut. Donc ça s'imposait plus de faire ça que d'acheter des houblons en Nouvelle-Zélande. Ou voilà. Donc, je suis très respectueux par rapport aux gens qui le font, mais j'ai pas envie de le faire.
Alors, est-ce qu'il n'est pas trop plus difficile de gérer une fermentation naturelle au niveau du CO2, enfin des bulles, etc. Est-ce que ça ne complique pas plus la fermentation ?
Bah, si, mais quand c'est facile, ce n'est pas drôle, déjà pour commencer. Et puis, en fait, on ne maîtrise pas vraiment une fermentation naturelle. On la laisse faire sa vie, en fait. Hein. Par contre, dans mon environnement, si on parle technique 30 secondes, j'arrive à faire des atténuations. Donc, on arrive à mes levures, consomme absolument tous mes sucres. Donc j'arrive à des bières qui sont 100% atténuées. Donc après, moi, je les refermente en bouteille ou en fût à l'ancienne. Mais donc, ça veut dire que moi, je suis sûr et certain d'avoir été complètement au bout de la fermentation. J'ai pas de sucre résiduel, en fait, dans mes bières. Mais ça prend du temps et je sais jamais dire combien de temps ça va prendre. Ça va de... En gros, c'est de 4 mois à 2 ans.
Et ça continue pas à fermenter en bouteille éternellement ?
S'il n'y a plus de sucre, ça ne peut pas aller plus loin. Par contre, comme je mets du sucre en bouteille, ça refait une fermentation, puis après ça s'arrête. Donc après, elle va continuer à évoluer. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les bières sur lit, donc elles vont continuer à évoluer, mais elle ne va pas fermenter plus loin qu'elle ne peut. Une fois qu'elle a mangé tout ce qu'elle a mangé, bah, il n'y a plus rien à manger. Voilà, ouais, ouais. On va dire qu'elle va s'endormir, quoi. Ouais.
Et donc, du coup, tu n'utilises que des matières premières locales ?
Alors, à 99%, je suis obligé de mettre du houblon quand même dans ma bière, parce que c'est la loi déjà. Mais par contre, je me limite à deux houblons, ce qu'on appelle des houblons nobles. Donc j'ai un houblon allemand, Alerto Mittelfru, et un houblon anglais, Liskeen Golding. C'est tout. Les malts sont locaux, donc l'orge est locale et maltée localement. Et l'orge, je travaille beaucoup le grand épeautre et le seigle aussi, qui sont des céréales locales. Donc je travaille vraiment que ça. Et tous les additifs, le mot est mal choisi, mais tous les ajouts que je mets dans ma bière, que ce soit les fruits, les fleurs, les herbes, c'est toute la cueillette sauvage.
Et en termes de diffusion, vous faites comment ? Parce que là, on vous retrouve chez Thirier, mais on reste dans le milieu des diffusions entre connaisseurs, on va dire.
C'est la complication de la chose. J'aurais rêvé de vendre toutes mes bières dans mon village. Hein. Alors j'en vends un peu, mais j'exporte. Donc on en trouve au Québec, on en trouve en Espagne, on en trouve en Belgique, mais on n'en trouve pas forcément dans mon village, ouais, parce que ce sont des bières qui sont, c'est un peu une niche dans la niche. Alors il y a des clients qui viennent vraiment chercher ça, mais je fais d'abord des bières que j'ai envie de faire. Donc si pour ça elles doivent être vendues au Québec, ben, elles sont vendues au Québec. Mais je constate quand même que plus les mois passent, plus les locaux commencent à s'intéresser un peu à ce que je fais dans mon endroit. Ils viennent voir, ils viennent goûter. Et quand ils goûtent, ils reprennent. J'essaye pas de faire des choses extrêmes. Le but, c'est de faire des choses qui se boivent. Alors, c'est particulier, c'est rustique, mais ça reste quand même très accessible.
Et tu disais que ça faisait 5 ans que tu faisais de la bière, donc ?
4 ans, ouais, c'est ça, ouais.
On a interrogé plusieurs brasseurs qui nous disaient « Il m'a fallu des années dans ma cuisine avant de me lancer dans la production commercialisable. » Et toi, t'as fait comment ?
Ben, moi, je ne fais pas des bières comme eux. En fait, c'est la nature qui va décider quand la bière est prête. En fait, faire du mou, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Hein. Ça, tout le monde peut s'y coller. Faire le mou, c'est pas difficile.
Hey, stop ! Maître Capsule, c'est dur de faire du mou ?
Non, Manu, c'est pas si compliqué que ça. Hein. En gros, c'est le liquide qu'on récupère de l'infusion du malt d'orge, concassé au préalable, évidemment. Comment ça se passe, la fabrication du mou ? Alors, on a 3 étapes. Une infusion du malt qui va se passer dans des températures comprises entre 60 et 70 degrés. Le premier but est de produire des sucres fermentissibles pour créer de l'alcool, mais aussi des sucres non fermentissibles, hein, puisqu'il nous faut du corps à cette bière. On peut donc jouer sur les paliers de température pour obtenir des équilibres différents. Exemple, 30 minutes à 62 degrés, puis 30 minutes à 66 degrés. Étape suivante, le rinçage. On obtient donc un liquide sucré qu'on va devoir rincer avec de l'eau chaude, en général au-delà de 70 degrés. Ce rinçage a deux buts, extraire un maximum de sucre, mais aussi arrêter la production de sucre. La production de sucre fermentissible, hein, on s'entend bien. Oui, en effet, les enzymes qui cassent les grandes chaînes de sucre, elles ne travaillent plus au-delà de 70 degrés, donc on arrête la production de sucre. Alors, la dernière étape, il s'agit de l'ébullition. On va donc récupérer ce liquide sucré après rinçage et le faire bouillir pendant une heure minimum. Alors, ça a comme but, deux buts principaux, hein, stériliser le mou avant la fermentation et ajouter du houblon au début de l'ébullition pour l'amertume et en fin d'ébullition pour l'arôme. Et en ajoutant, évidemment, on peut aussi ajouter des épices en plus. Le mou est ensuite refroidi rapidement pour être transféré dans les fermenteurs.
C'est tout ce qui est post-fermentation qui est compliqué dans une bière. Alors quand on travaille avec des levures de laboratoire, on est obligé de travailler vraiment dans des trucs hyper précis. Il faut du temps pour arriver à un process vraiment stable. Comme moi je travaille à l'ancienne et que mon temps de fermentation est très long, ça me laisse le temps qu'il faut. J'ai pas de calendrier pour travailler. Je suis pas obligé de faire une bière en 6 semaines ou en 8 semaines. S'il faut un an et demi, s'il faut 2 ans, ben voilà, c'est une autre approche. C'est une autre approche.
Et dans la bière dans les bières que tu fais à la fermenterie, s'il y en a une que tu devais proposer aux auditeurs de Radio Campus ?
Alors, bah, j'irai clairement sur une fermentation spontanée. J'ai 3 gammes en fait spontanées. C'est air, terre, feu, qui sont les 3 éléments de la bière. Bah, l'eau, étant donné qu'il y en a dans tous, on ne les compte pas. Et air, c'est tout ce qui est assemblage de barriques sans macération ou sans infusion auprès. Dans la série terre, je travaille des herbes locales. Et une herbe que j'aime vraiment particulièrement, c'est la spérule odorante, qu'on trouve en Belgique, qu'on trouve partout en fait en France, dans les forêts de hêtres et de sapins. Et ça amène un côté foin, cannelle. On retrouve des notes de fève tonka et je trouve quand même ça assez sympa, quoi. C'est pas de la gueuse, hein. Je suis pas dans l'appellation de la gueuse, je fais pas de la gueuse, c'est de la fermentation spontanée, mais on retrouve ces notes de levure sauvage, ces notes de bois qui vont super bien avec les plantes, je trouve.
La levure sauvage doit dépendre de l'endroit où on se trouve. La montagne, c'est pas pareil qu'à Bruxelles ou.
Alors, je suis très très ami avec Jean Van Droit de chez Cantillon.
Une petite précision pour nos auditeurs. Cantillon, c'est la dernière brasserie bruxelloise de Lambic, ouverte depuis l'an 1900. Elle abrite également aujourd'hui le musée bruxellois de la Gueuse. Et maintenant, redonnons la parole à Christophe de la fermenterie des Champs Marmots.
Et donc avant de lancer mon projet, on en a discuté, il me dit « Tu sais, si ça marche à Bruxelles, ça va marcher chez toi. C'est à peu près sûr. Moi, je suis entouré d'abeilles. On est dans une nature qui est vraiment préservée. Donc, ça a vite démarré. Et mon environnement s'est créé dans la brasserie. Donc maintenant, il y a dans toutes mes barriques, on retrouve ce qu'on appelle une signature. En fait, ça commence à se développer maintenant, mais il a fallu 4 ans pour ça. Hein. Donc, c'est vraiment du temps qui se met en place. Alors, la sous-souche de mes levures, il faudrait que je fasse analyser pour voir laquelle c'est, mais elle doit être certainement propre à mon environnement.
Il y a des multiples.
Oui, bien sûr. Ouais. Il y a d'abord des bactéries et des levures. Il y a une multitude de choses.
Est-ce que l'altitude joue par rapport à Bruxelles ou Morzine ?
Alors, elle joue en ma faveur et en ma défaveur. En ma faveur, parce que j'ai un point d'ébullition qui est plus bas que les autres. Donc, j'ai besoin de moins d'énergie. Donc, ça, c'est déjà une chose. En ma défaveur, c'est que chez nous, on a des hivers qui sont rudes et des étés qui sont chauds. Donc, ça veut dire que j'ai une fenêtre de tir qui n'est pas la même que tout le monde. Quand il fait du moins 20 en janvier, je ne sais rien faire, quoi, par exemple. Donc, moi, je dois vraiment travailler en fonction de la météo. Là, j'ai regardé la prévision. La semaine prochaine, sont bonnes. Donc, semaine prochaine, j'ai fait du spontané parce qu'on va avoir des nuits à moins 1, moins 2 et des journées à plus 3, plus 4. Donc, ça, c'est juste parfait, quoi. Parce que je fais ça dehors. Donc, je fais le refroidissement à l'extérieur. Donc, et on a besoin d'une température à peu près bonne, quoi.
La bière est bien sûr à consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
De la bière à manger. Alors aujourd'hui, on mange de l'Irish Stew. Stew. Merci, Maître Capello. Alors c'est normalement, quand vous allez chercher ça aujourd'hui, on vous fait ça avec de l'agneau. Mais le vrai, le pur, le dur, il est fait avec un bon vieux mouton. Et je crois, Manu, que tu as des conseils à nous donner pour trouver le mouton ?
Ah bah, faut au moins qu'il ait 2 ans. Donc, le seul moyen, c'est de se mettre d'accord avec un producteur local. Parce que jamais ils vont les garder en attendant qu'il y ait un client qui se présente. Donc, il faudra le réserver longtemps à l'avance.
D'accord, alors pour faire tout ça, on a besoin donc d'un bon vieux mouton, on a besoin de pommes de terre, de carottes, de céleri, et d'un petit bouquet aromatique, thym, persil, etc., de l'huile d'olive, du sel, du poivre, et de la bière. Alors qu'est-ce qu'on met comme bière avec ça, Maître Capsule ?
Bon, bah moi je pense qu'une stout paraît tout indiqué, hein, une irlandaise avec des maltes bien torréfiées qui vont donner de la puissance, du goût, qui vont bien s'adapter à cette viande forte.
Alors allons-y pour une bonne stout irlandaise. Donc l'idée de base, bah, c'est l'huile d'olive avec les oignons à faire chauffer. Et puis on a coupé le mouton en carré qu'on met à braiser gentiment. On y rajoute, une fois qu'on a bien braisé la viande, un peu de légumes. On mouille tout ça avec un peu de bouillon de bœuf. Et au final, on remplit tout à ras-bord de bière et on laisse cuire pendant 10 heures. On n'oublie pas, un peu avant la fin, de venir rajouter les pommes de terre qui cuisent moins longtemps que tout le reste.
Et alors, pour essayer que ça ne soit pas trop amer quand même, le mieux, c'est d'écumer régulièrement. Y en a 2 qui sont d'accord.
De la bien écouter.
C'est déjà presque fini. On se retrouve dans un mois sur Radio Campus Amiens 87.7 avec 2 nouveaux brasseurs. Et en attendant, pendant que vous essayez la recette de Pascal, on écoute I Hope They Sell Beer in Hell de Mr. Irish Bastard en 2015. I hope they sell beer in hell, my dear. I hope they sell beer, my dear. I hope they sell beer. Sell beer in hell, my dear. Stranded here on an empty rock, while it's
Just one of the boys, just one of the lads. And when they wrap me up,